musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Des mots, comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes. Ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute. Ça n'empêchera pas de parler d'argent.
Bonsoir, Radio Pleine Lune 93.8 MHz, Onde Femme, Radio Zone. Le remue-ménage s'est calmé, la lune monte dans vos oreilles. Est-elle dans le ciel? C'est difficile à dire, c'est tellement brumeux, froid, l'hiver. Mais ça fait rien, tous les mercredis, à partir de 18h30, la lune toute pleine reluit et brille dans vos oreilles sur 93.8 MHz, Onde Femme, Radio Zone. Au programme ce soir, dans quelques instants, les informels, les nouvelles de la pleine lune, suivies des coups de cœur de Marjolaine. Et ce soir, elle a un cœur gros comme ça. Radio Pleine Lune, Onde Femme, Radio Zone, nos nouvelles. Des femmes iraniennes contre le clergé. Alors que le fossé ne cesse de se creuser en Iran entre la société civile et l'État islamique, les femmes se retrouvent en première ligne pour réclamer un aggiornamento de leur pensée religieuse et la reconnaissance de leurs droits. Le débat est lancé dans les pages des magazines féminins à grand tirage et il est suivi par des citoyennes de toutes les conditions sociales. Pour une fois, les femmes islamistes, intellectuelles et laïques s'unissent contre les conservateurs, défenseurs d'une conception obscurantiste et rétrograde de l'islam. Le débat s'est envenimé avec le projet des traditionalistes d'interdire les postes de la magistrature suprême aux femmes. Depuis plusieurs années, des femmes comme Madame Cherkat, rédactrice en chef du magazin féminin Zanan, les femmes, ont lancé le débat pour une relecture du Coran plus ouverte aux femmes et à la situation d'aujourd'hui. Face aux problèmes qu'affrontent les femmes, un changement radical des lois est nécessaire, dit-elle. Puisque plusieurs articles du Code civil sont fondés sur la charia, il faut la réinterpréter et les femmes doivent participer à cet effort. Fin de citation. D'autres revues mettent l'accent sur la distinction entre l'islam et les traditions patriarcales sur lesquelles certains articles de loi sont fondés. Nombre de ces femmes islamistes qui, au début de la Révolution, ont participé à la lutte contre les laïcs, ont réalisé que les régressions dans les droits des femmes visaient toutes les femmes, quelles que soient leurs convictions. Du coup, une solidarité de sexe se dessine et des alliances se font jour entre femmes islamiques et laïcs. En Europe, des femmes albanaises viennent se brûler au rêve italien. On estime à 500 000 le nombre de jeunes femmes venues en Europe occidentale chercher une vie meilleure et de fait contrainte de se prostituer. Ces Albanaises, lancées à la poursuite du rêve italien, arrivent donc clandestinement, ivres de promesses, et tout de suite les flatteries se transforment en menaces et le rêve se révèle une route nocturne avec au bout la prostitution. Les pages des faits divers racontent brièvement la sombre histoire de ces jeunes filles dont les corps non identifiés sont retrouvés carbonisés dans une décharge, de ces jeunes filles poignardées, jetées dans un fossé, battues à mort, balancées d'une voiture. C'est un racket sanglant qui régit l'accès au pays des merveilles. Commentant le piège qui se cache derrière le rêve italien, le journal de gauche Il Manifesto avait lancé un slogan « Il faut les prévenir ». C'est ce qu'a décidé de faire une agence de communication milanaise qui a lancé un spot publicitaire à la télévision qui est passé en Albanie. On y voit ainsi une jeune femme qui écrit à une amie restée en Albanie. L'Italie, dit-elle, est un pays merveilleux. Je sors tous les soirs, j'ai tout de suite trouvé une maison, un travail, j'ai rencontré des tas de gens intéressants, j'ai trouvé l'amour. Et puis ça continue. la voix, on voit une jeune fille face au miroir qui a fini de se tartiner les cils de rimmel, les lèvres de rouge, le visage lourdement maquillé, celui d'une Italienne, car aucune Albanaise n'a accepté de prêter son image. Mais peu importe, mini-jupe moulante, perruque blonde, ainsi attifée, toutes les filles se ressemblent. Dehors, les voitures font déjà la queue. Une nouvelle nuit infernale de prostitution commence. Voilà, dit la voix, le travail que tu peux trouver en Italie, explique la voix. Attention, ne te fais pas piéger. Les femmes de l'île indonésienne de Lombok sont interdites de contraceptifs quand leur mari est en voyage d'affaires. Ainsi en ont décidé les autorités qui limitaient déjà l'achat de ce produit aux femmes munies d'une autorisation écrite de leur mari. C'est juste une précaution pour éviter que les ménagères ne soient tentées de mal se comporter, déclare le porte-parole de la circonscription qui se garde bien de parler des tentations auxquelles succombent les businessmen en goguette à Bangkok par exemple. En Pologne, le syndicat Solidarité a décidé de boycotter la loi libéralisant l'avortement. Le président du syndicat Solidarité, Marian Kraslewski, a appelé les adversaires de la loi qui libéralise l'avortement à ne pas payer de cotisations sociales. La loi autorisait l'avortement en raison de graves difficultés matérielles ou personnelles de la mère a été promulguée récemment. En France, la Cour de cassation a rejeté les arguments des commandos anti-avortement. Dans 3 arrêts rendus la semaine dernière, la chambre criminelle de la Cour de cassation précise que la loi Veil de 1975 est compatible avec la Convention européenne des droits de l'homme, le Pacte international des droits civils et politiques et la Convention de New York sur les droits des enfants, rejetant ainsi les arguments des militants anti-avortement. Nés dans la foulée des mouvements pro-life, ces mouvements ont commis de nombreuses opérations visant à essayer d'intimider les femmes qui voulaient recourir à des avortements ou les personnes qui, ou les hôpitaux, les médecins, les infirmières qui aidaient ces femmes. Face aux opérations des anti-avortements, la justice a pour le moment adopté des décisions contradictoires. Plusieurs d'entre eux ont été relaxés, tandis que d'autres se voient infliger des peines de prison ferme. En tout cas, c'est décidé dans ces 3 affaires examinées. Les adversaires de l'avortement affirmaient que la loi de 1975, la loi Veil, qui dépénalise l'interruption volontaire de grossesse, dite donc loi Veil, n'était pas compatible avec plusieurs textes internationaux signés par la France. Il dénonçait notamment la violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui précise, je cite, que le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La chambre criminelle de la Cour de cassation a donc écarté ces arguments dans ses attendus. Elle précise que la loi Veil n'admet qu'il soit porté atteinte au principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Mais bien entendu, c'est sur ce thème, commencement de la vie, que se pose le problème de l'avortement pour les gens qui sont pour le choix. Un fœtus de quelques semaines n'est pas vraiment un être vivant autonome. La Chambre conteste enfin que la loi Veil enfreigne la Convention de Genève sur l'esclavage, comme l'affirmaient les militants anti-avortement, et que l'avortement soit un crime de génocide ou un acte de torture. La Cour de cassation a donc franchi un pas important en direction des associations de lutte pour les droits des femmes, reconnaissant entre autres à l'Union des femmes françaises le droit de se porter partie civile, ce que les anti-avortements refusaient. Les anti-avortements donc ont obtenu satisfaction sur un seul point. La Cour de cassation a précisé que le bloc opératoire d'un établissement de santé n'est pas vraiment un domicile et on ne peut pas donc les inculper de violation de domicile. Mais tout le reste est valable. Le rejet par la Cour des arguments des pro-Olivie ne laissera sans doute qu'un bref répit aux défenseurs de la loi Veil. En effet, leur stratégie était protéiforme. Les sauveteurs, comme ils s'appellent eux-mêmes, explorent d'ores et déjà d'autres voies juridiques. Ainsi, devant la Cour d'appel de Chambéry, dernièrement, ils ont gagné, ils ont été relaxés en prétextant que la loi Veil était mal appliquée et que les brochures qui étaient distribuées n'étaient pas mises à jour chaque année. Ces activistes pour l'avortement sont inspirés des mouvements pro-vie américains et totalement infiltrés par les intégristes religieux. Ils sont nés à la fin des années 80 dans le sillage des mouvements pro-vie américains. Plus agités que leur aîné de laisser les vivre, l'association qui avait pour conseiller scientifique le professeur Jérôme Lejeune, découvreur du gène de la trisomie, les militants anti-avortement d'aujourd'hui cultivent le goût de l'action, du spectacle, télévision aidant, nul n'ignore plus leur veste de chasse kaki, leur écharpe bleu burri et leur petit tailleur bon chic, bon genre. Il y a par exemple SOS Tout Petit, créé en 86, qui, comme le Comité pour sauver l'enfant à naître, sont issus de la Trêve de Dieu, qui s'inspire directement de l'association américaine Rescue. La Ligue pour la vie est venue renforcer les rangs en juin 1995 à l'initiative de Guillaume de Tarlet, conseiller Front National. Recruté dans la mouvance catholique intégriste et parmi les électeurs de Jean-Marie Le Pen et de Philippe de Villiers, ces nouveaux croisés ont leur figure emblématique, par exemple Xavier Dor ou Claire Fontana, présidente de la Trêve de Dieu, mère d'un nombre incalculable d'enfants, condamnée à plusieurs reprises, mais très contente. Elle est fière, dit-elle, de risquer la prison. Selon les comptes de la Coordination nationale des associations pour le droit à l'avortement et à la contraception, entre janvier 90 et mars 95, 68 opérations du même type, c'est-à-dire des perturbations dans les hôpitaux, ont donc gêné des interruptions volontaires de grossesse dans des cliniques et dans des hôpitaux. Récidivistes, galvanisés par leur modèle d'outre-Atlantique, les fous de Dieu à la française ont poursuivi loin du terrain leur travail de lobbying institutionnel. Ils ont trouvé des oreilles attentives au Parlement. En juillet 1995, les sénateurs ont ainsi voté l'amnistie pour les contrevenants à la loi Neyert, c'est-à-dire les manifestants anti-avortement. En mars dernier, un amendement déposé par des députés UDF prévoit d'autoriser les associations de défense et de promotion du droit à la vie à se porter partie civile en cas, disent-ils, de provocation à l'avortement, c'est-à-dire simplement de faire la publicité des plannings, par exemple. Dernier épisode en date, au mois d'octobre, un groupe de parlementaires tente de remettre en cause le remboursement des avortements non thérapeutiques. Tous ces efforts sont heureusement restés vains. On espère que ça continuera ainsi. Toujours en France, le Conseil d'État a confirmé l'exclusion de 23 élèves musulmanes voilées. Les exclusions scolaires des 23 jeunes filles ont donc été confirmées, mais seulement pour cause de troubles manifestes causés dans l'établissement ou d'absentéisme. En revanche, cette mesure d'exclusion a été annulée pour les cas de jeunes femmes portant le voile, mais ne faisant aucun trouble et allant à tous les cours. Le Conseil, fidèle à sa jurisprudence, a rappelé que le foulard ne saurait être regardé comme un signe dont le port constituerait dans tous les cas un acte de pression ou de prosélytisme. Les exclusions qui avaient été décidées sur la base d'une interdiction pure et simple du foulard ont donc été annulées, mais ont été confirmées celles que l'Éducation nationale avait justifiées soit par le refus d'assister à certains cours, par exemple la gymnastique ou la biologie, soit par le trouble causé par des mouvements de protestation. Ce fut le cas au lycée Falderme à Lille, dont 17 élèves ont été et demeurent exclus. Les autres donc ont pu réintégrer les cours. En France toujours, le Parti socialiste a décidé de mettre la sauce du côté des femmes en intronisant des femmes candidates. Il a donc il est arrivé au quota de 30% de femmes candidates. Le Parti socialiste a donc approuvé cette petite révolution culturelle dans les mœurs politiques françaises. Le Parlement du Parti socialiste a donc entériné une liste de 167 circonscriptions législatives sur 555 exclusivement réservées aux femmes. Certes, par le passé, les socialistes avaient réussi la parité parfaite. C'était aux élections européennes, quand Michel Rocard avait imposé ce qu'on avait appelé la liste Chabalaba, un homme, une femme. Mais l'exercice était plus facile puisqu'il s'agissait d'une élection improportionnelle. Aujourd'hui, fort d'une autorité politique que nul ne lui conteste, au sein du Parti socialiste, Lionel Jospin a pu imposer une candidate sur trois dans un scrutin uninominal. Si les socialistes empochent 250 sièges en 98, 40 ou 50 femmes prendront place dans le prochain groupe parlementaire, du jamais vu dans les travées de l'Assemblée nationale. Après la vague rose de 81, elle ne dépassait pas 20 femmes à tout casser. Lors du Bureau national, il y a eu pas mal de contestations. Par exemple, Laurent Fabius est longuement intervenu pour défendre quelques-uns de ses ouailles masculines, comme par hasard. Et puis, on se demande aussi, bien sûr, dans quelles circonscriptions est-ce qu'on ne va pas envoyer des femmes au casse-pipe. Lorsque les socialistes avaient lancé cette procédure de féminisation, Yvette Roudy, maire de Lisieux, s'est inquiétée des qualités des circonscriptions réservées aux femmes. L'ancienne ministre des Droits des Femmes avait ironisé sur l'insigne honneur fait à certaines d'entre elles d'aller combattre, par exemple, Balladur à Paris ou Juppé à Bordeaux. Aujourd'hui, plusieurs volontaires ont revendiqué un combat perdu d'avance, comme celui d'affronter Alain Juppé à Bordeaux, justement. D'autres, au contraire, ont choisi des endroits où elles risquent quand même d'être élues. En France, toujours, on pousse à la libéralisation et à la dérégulation de l'emploi. On arrive à ce que Libération appelle le boom de l'emploi jetable. La droite veut en effet faire de l'assouplissement du droit du travail un thème prioritaire. Travail précaire, qui a d'ailleurs fortement augmenté. Et il faut que ce travail précaire compte de nombreux partisans qui pressent le président de la République d'assouplir les règles d'embauche et de licenciement. La fameuse flexibilité dont on a beaucoup parlé en Suisse lors du vote de la loi sur le travail, mais qu'on pourrait plutôt appeler des régulations. Les syndicats et la gauche sont contre et dénoncent l'avènement de ce qu'on peut appeler des Français à durée déterminée avec ces fameux CDD. Ces CDD, ce sont justement ces contrats à durée déterminée qui n'arrêtent pas d'augmenter et les personnes qui passent d'un CDD en mission d'intérim à un temps partiel non choisi, avec des horaires abracadabrants, courant de contrat emploi solidarité en stage plus ou moins bidon, et de préférence mal payé, les travailleurs non qualifiés, spécialement les jeunes et les femmes, sont les premières victimes de la précarisation explosive du marché du travail en France. Pour donner quelques chiffres, depuis un an, les demandeurs d'emploi ayant accepté un petit boulot d'une mission de courte durée, ces fameux CDD, ont progressé de 23%. Depuis 1995, ils ne sont plus d'ailleurs comptabilisés dans le nouveau baromètre du ministère du Travail, ce qui a fait d'ailleurs brutalement et bizarrement tomber les chiffres du chômage. En 14 ans, de 82 à 96, le nombre des personnes à contrat déterminé est passé de 400 000 à plus d'un million. Dans le même temps, le nombre de stagiaires a bondi à plus de 450 000 et les salariés occupant un poste à temps partiel mais souhaitant un emploi à plein temps sont plus de 1,4 million. Selon une étude publiée l'année dernière sur le travail à durée limitée, la proportion des personnes décrochant un contrat à durée indéterminée à la terme de ces petits boulots n'arrête pas de diminuer. En tout cas, pour les patrons, ces CDD et ces intérims ont un avantage certain, bien concret. Les entreprises peuvent ainsi, et là je cite les paroles d'un patron, mieux contrôler le climat social de l'entreprise, car le caractère temporaire de la présence dans l'entreprise et l'espoir d'une éventuelle embauche ferme sont des facteurs dissuasifs face à une velléité de contestation. Et oui, la peur de se faire renvoyer, rien de mieux pour diriger. Toujours en parlant d'organisation du travail, une étude vient de sortir aux États-Unis qui montre que l'avènement des grandes multinationales conduit à un apartheid économique. Il faut savoir que les 100 premières économies mondiales ne sont plus des pays, mais des entreprises. Le chiffre d'affaires des constructeurs automobiles, de la General Motors, de Ford et de Toyota est plus élevé que le produit national brut du Danemark, de l'Afrique du Sud ou de la Norvège. Les grosses sociétés affirment qu'elles créent de nombreux emplois, offrent des biens de grande qualité à bas prix aux consommateurs des quatre coins de la planète et rassemblent les peuples en un village mondial qui transcende les frontières. Aux États-Unis, le gouvernement mène une politique qui sert outrageusement les intérêts de ces grandes entreprises, que ce soit en matière d'allègements fiscaux ou encore d'accords de libre-échange. Mais si on regarde ce qui se passe, on voit un autre tableau. Le chiffre d'affaires total des 200 premières entreprises mondiales représente plus du quart de l'activité économique globale. Est-ce qu'elles fournissent autant d'emplois ? Pas du tout. Elles emploient 0,75% de la main-d'œuvre mondiale. En ce temps d'automatisation et de restructuration, les groupes améliorent leurs résultats à coup de licenciements massifs et non d'embauches. General Motors, le plus grand employeur privé de la planète, employait autrefois plus d'un million de personnes et permettait à des millions et des milliers de personnes pauvres, entre autres des Noirs, d'entrer sur le marché du travail. Aujourd'hui, ces effectifs ont été ramenés à 700 000 employés à peine. En raison de leur position dominante, les transactions entre unités d'un même groupe représentent le tiers du commerce mondial. En d'autres termes, une part croissante des échanges internationaux consiste en des expéditions de pièces d'une usine General Motors de Détroit vers un site de General Motors au Mexique. La concentration économique dans de nombreux secteurs n'entraîne pas de baisse de prix, bien au contraire. Puisque quelques entreprises se partagent le marché, elles n'ont absolument pas besoin de faire. Elles ont une position de cartel et n'ont pas besoin de se faire concurrence. Par exemple, il y a 5 grandes entreprises dans le transport aérien, l'aérospatial, la sidérurgie, le pétrole, la micro-informatique, la chimie et les médias. Et toutes ces entreprises réalisent 30% du chiffre d'affaires mondial dans leur secteur respectif. Donc elles ne sont nullement inquiétées par la concurrence et elles sont rarement pressées de baisser les prix. Les géants de l'industrie et des services se targuent de rapprocher les peuples en créant un marché mondial pour leurs produits. En réalité, ce qu'ils créent ressemble plus à un apartheid économique de dimension planétaire. Les deux tiers de la population active mondiale, 20% dans les pays riches, 80% dans les pays pauvres, ne peuvent pas trouver un emploi dans ces unités de ces entreprises dans le monde, ni s'offrir les produits qu'elles vendent. Les chiffres d'affaires totaux de ces sociétés est plus de 2 fois plus élevé que la somme des revenus des 4/5 les plus pauvres de la population mondiale. Elles pèsent aussi 2 fois plus que l'ensemble des économies de la planète, les 9 pays les plus riches mis à part, soit 182 pays au total. En 1995, les ventes d'une seule d'entre elles, la chaîne de magasins populaires américaine Walmart, a dépassé le produit intérieur brut de 161 pays. Mais le pouvoir détenu par les multinationales montre que le vrai fardeau vient du haut et non du bas de l'échelle économique. Le mouvement de concentration des entreprises aggrave les inégalités dont nous faisons tous les frais parce qu'il érode la cohésion sociale. La cause profonde de l'angoisse économique qu'éprouvent les Américains et les Européens comme tient plutôt au renforcement de la puissance d'entreprise qui n'ont de compte à rendre à personne. À Genève, du Rififi à la télévision suisse romande. Suite à un temps présent, la directrice des programmes ainsi que 3 journalistes ont été mis à pied. Cela a suscité une manifestation de soutien des employés de la télévision en Suisse romande. Reprenons l'histoire. La semaine dernière, le magazine Temps présent proposer un sujet sur le mobbing. Le mobbing, c'est ce harcèlement qui tend à poser comme une tête de turc une personne dans un groupe qui se trouve totalement reléguée et harcelée, moins, pas tellement au niveau sexuel qu'au niveau de la parole ou des attitudes. Lors de ce temps présent, on a pu voir plusieurs personnes témoigner, la plupart du temps de façon anonyme, mais cependant, certaines personnes y ont découvert une employée de la télévision qui se plaignait justement d'être harcelée. Cela provoquer un trouble. Et Béatrice Barton, responsable des magazines, a été mise à pied. Béatrice Barton trinque, la décision est tombée. La journaliste est démise de ses fonctions de rédactrice en chef des magazines et adjointe du chef du département de l'information pour avoir donc diffusé ce temps présent incriminé sans consulter la direction. Elle continuera cependant à produire et à présenter temps présent. D'autres journalistes, des blâmes ont donc touché également les journalistes qui ont réalisé et produit cette émission. Il s'agit de Nadia Brendley, André Gazu et Gilles Page. Une manifestation de 200 employés s'est tenue mardi devant la tour de la télévision pour protester contre cette situation. Au nom de la Société des rédacteurs du téléjournal, de la communauté des journalistes, du syndicat suisse des médias et de l'association des réalisateurs de la télévision, Alec Feuze a fait une déclaration reprenant les termes d'un communiqué de presse du personnel. En substance, ce dernier estime que le motif invoqué, la diffusion du témoignage d'une collaboratrice victime de harcèlement, est totalement infondé car ce témoignage était anonyme et ne permettait pas d'identifier la TSR dans le public. En tout cas, de cette affaire, on en tire une leçon que mieux vaut être harceleur que harcelé et qu'une des caractéristiques justement du mobbing, c'est de faire passer la victime au rang de coupable. Et bien maintenant, ce rang s'agrandit à toute personne qui ose même parler et laisser parler les victimes. Et puis, à la rubrique des débats, Marie-Victor Louis, présidente de l'Association européenne contre les violences faites aux femmes et au travail, sociologue au CNRS, s'élève dans les pages de Libération contre le groupe NTM, Nick ta mère, ce groupe qui a été condamné pour avoir chanté Nick la police, condamné à des lourdes peines. Tout en s'élevant contre et en dénonçant cette condamnation, Marie-Victor Louis s'étonne quand même qu'on ait laissé passer sans aucun problème l'injure de Nick ta mère, qui veut quand même dire baise, viol, vas-y, tu peux tout faire à ta mère. Mais comme elle dit, chaque fois qu'une injure sexiste est véhiculée par les médias, la publicité, les BD, les groupes musicaux, il n'y a pas de réaction. Une part de l'humanité des femmes, si peu respectée, est détruite, mais ça ne pose aucun problème. Chaque étape de cette tolérance passive de la société justifie que celle-ci se sente légitimée à repousser plus loin les frontières du tolérable. Ce que l'affaire Nick ta mère révèle aussi, c'est la tolérance de notre société devant les violences masculines et de regretter que les crédits alloués pour aider les femmes victimes de violences n'ont pas arrêté de diminuer en France ces dernières années. C'était les nouvelles sur la pleine lune 93.8 MHz On Femme Radio Zone. Juste encore pour vous donner un petit rendez-vous, si vous avez envie d'aller danser, pourquoi pas au bal de l'escalade proposé par la maison de quartier des Astères de la Servette. C'est le jeudi 12 décembre à partir de 19h30 et vous pourrez danser du calypso, du tango, de la valse, du passo d'obre. Waouh, waouh. Et puis il y a également des marchés de Noël qui sont proposés le 14 décembre, un samedi du partage, qui vous permettra donc d'acheter pour donner aux plus démunis. Il y a c'est le samedi 18 décembre. Ça se passe. Excusez-moi, j'y arriverai. Non, c'est le 14 décembre, effectivement, et je ne sais pas exactement où. Bon, je vous en reparlerai bientôt. Quant à moi, je vous dis au revoir, à la semaine prochaine, et puis je vous laisse en compagnie de Marjolaine qui vous ouvre bientôt son cœur.
Le train 2110 arrivant de Strasbourg. Réservé 2 minutes d'arrêt.
Le train de 1110 arrivant de Strasbourg. Votre hangar au Caissis, direction Luxembourg. Correspondance pour Reims, au quai numéro 1. Départ 19h20, changement à Verdun. Grille express et café, voiture en queue du train. Et veuillez emprunter le passage souterrain. Correspondance pour Reims, au quai numéro 1. Départ 19h20, changement à Verdun. Le train 2110 arrivant de Strasbourg. Direction Luxembourg. Trois wagons réservés, 2 minutes d'arrêt. Veuillez vous éloigner de la bordure du quai.